Bonjour frères et sœurs. J'avais un titre, et bon, c'est toujours le même titre d'ailleurs. Justement, comme Lucie a parlé de sa confiance en Dieu, ça va dans ce sens-là. Alors, mon titre, c'est « À la recherche de l'équilibre ». À la recherche de l'équilibre. Alors, est-ce que vous croyez que je suis un type équilibré qui prétend vous donner des clés pour l'équilibre? Hein, non, moi je suis pas du tout un type équilibré. Je suis très passionné. Hein, je suis facilement accroché à quelque chose. Je suis devenu, disons, passionné de l'histoire, tout ce qui est histoire. Quand je me suis tourné vers le Seigneur, je me suis converti à l'âge de 19 ans, mais vers les années, 15-16 ans, je m'avançais vers le Seigneur. J'avais l'intention de donner ma vie pour Dieu. Et un peu timide, j'osais pas trop m'avancer. Et il a fallu qu'à un moment donné, maman décède pour que je me dise quand même, il faut quand même que je m'engage, et de manière bien, bien explicite devant les gens, de dire je suis au Seigneur. Voilà. Je suis passionné, je pense que beaucoup sont passionnés. Hein. Je peux être passionné par l'histoire de Charlemagne, vous savez, tout ce qu'on nous apprend sur Charlemagne, sur les Hébreux qui ont émigré en Espagne du temps du roi Salomon. Il y a des gens qui récupéraient l'or d'Ophir, mais l'or aussi du côté du Guadalquivir. Il y a plein de choses à chercher. S'il y a des étudiants qui ont envie de faire des tests d'histoire, je vous assure, ils peuvent y aller. Hein, il y a du taf. Hein. Je suis passionné par ça. Je suis aussi passionné par la science. Je suis aussi passionné par la poésie. Je suis passionné par la peinture. Je suis passionné par la musique. Je suis passionné par la sculpture. Enfin bref, bon. Je ne suis pas équilibré. C'est simplement pour vous dire que je suis en train de vous dire à la recherche de l'équilibre, mais moi-même, je ne suis pas un modèle en soi. D'abord, vous cherchez le mot équilibre dans la Bible, eh bien, il n'existe pas. Alors, est-ce que ça veut dire que personne n'est équilibré dans la Bible? Une question que je vous pose, voilà. Il existe bien sûr sagesse, patience, mesure, bonté, douceur, fermeté, sobriété, mais... équilibre n'a pas. Et pourtant, on a l'impression quand même que le Seigneur est un être équilibré. C'est un être qui fait des choses extraordinaires, mais on sent bien dans la vie de Jésus-Christ une notion d'équilibre. À un moment donné, il arrête avec ses disciples, il les écarte de la foule, il faut qu'ils se reposent tous ensemble. À un moment donné, le Seigneur arrive près d'un puits, il est fatigué, il s'arrête, il a soif, il a rien pour puiser. Ses disciples sont partis chercher de la nourriture, ils ont faim, il faut s'arrêter. On sent qu'il y a des moments d'équilibre dans cette vie de Jésus sur la terre. Et nous voyons que c'est à peu près comme ça tout le temps, Dieu est un Dieu d'équilibre. Je suis absolument persuadé que le Dieu que nous avons est un Dieu d'équilibre. J'ai quand même des problèmes avec cet équilibre que je recherche, non pas que je le recherche en soi, parce que si vous commencez à chercher l'équilibre pour l'équilibre, c'est-à-dire que c'est je voudrais être équilibré, alors ce qui m'intéresse, c'est que je suis épanoui et équilibré. Est-ce que c'est ça mon but premier dans la vie? Est-ce que c'est la recherche du bonheur? Quand vous savez qu'il y a des gens, ils recherchent le bonheur. Et vous dites, mais ils ont raison. Oui, ils ont raison, et en même temps, vous sentez tout de suite, vous, en tant que chrétien, que c'est pas tout à fait ça quand même. Si je cherche le bonheur pour le bonheur, et que ça soit le bonheur en soi, c'est pas tout à fait ce que Dieu cherche pour moi, pour toi. Il te cherche, il cherche ton bonheur, mais il ne cherche pas le bonheur comme étant l'idéal hédoniste de cette terre, n'est-ce pas? Chacun veut chercher le bonheur, et puis personne ne s'occupe de Dieu. Nul n'est sage, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, pervertis. Alors on dit, c'est oui. Pour quelle raison? Parce qu'ils recherchent le bonheur, mais simplement de manière intrinsèque pour eux-mêmes, quoi. Qu'est-ce qui fera plaisir au Seigneur? Un chrétien obéissant? Oui. Un chrétien qui témoigne? Oui. Un chrétien heureux, oui, qui exprime par sa vie qu'il a un maître bienveillant, qui s'occupe de lui. Oui, mais est-ce que c'est vraiment obéissant que le Seigneur cherche? Oui, bien sûr, mais l'obéissance n'est simplement qu'une expression de quelque chose de plus, de notre amour pour le Seigneur. Un chrétien qui témoigne, mais s'il témoigne parce qu'il veut témoigner, parce qu'il pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est comme ça qu'on fait quand on est chrétien, qu'on témoigne, il se trompe. Ce n'est pas témoigner qu'il faut faire, c'est exprimer la joie que nous avons et qui sort de nous à cause de ce que nous avons au fond et qui fait que nous témoignons. Je ne sais pas, d'être témoin qui est important. C'est, vous comprenez, il y a quelque chose de curieux qu'on peut avoir, une sorte de déséquilibre dans la façon dont nous voyons notre vie chrétienne. Je dis notre parce que c'est la vôtre, mais c'est aussi la mienne. Être équilibré. Un chrétien heureux qui exprime par sa vie qu'il a un maître bienveillant, qui s'occupe de lui. C'est ce qu'un peu a dit Lucie et c'est ce que nous disons tous, chacun en général. Ma question est celle-ci. Croyez-vous que Dieu recherche votre bonheur? Comme ça, comme les gens du monde cherchent le bonheur? Est-ce que Dieu cherche notre bonheur? On dit, mais oui, bien sûr, Seigneur cherche notre bonheur, mais vous avez des cas dans votre entourage où vous n'avez pas l'impression que le Seigneur recherche le bonheur de quelqu'un. En particulier, vous pouvez trouver quelqu'un de malade ou quelqu'un qui est vraiment dans la détresse. Mais Dieu ne cherche pas son bonheur. Il nous a parfois une notion du bonheur qui est centrée sur nous et qui ne correspond pas à celle de Dieu. Alors, j'ai à cœur de prendre des versets, et j'ai un peu le trac parce que ça ne va pas vous paraître équilibré, quoi. Hein. Mais bon, bref, on va le prendre quand même. Hein. C'est le psaume 127. Le psaume 127 me semble bizarre. Il y a des choses que nous lisons dans la parole de Dieu, on a l'habitude de les lire, et est-ce qu'ils ne sont pas bizarres quelque part? Un individu dans le monde actif, qui est en pleine activité, il aura un individu, une personne, une dame ou un monsieur, dire moi je fais ceci, je fais cela, ma vie c'est ça, je fais ça, je suis peut-être astronaute et je suis en train de me balader autour de machin. Ou alors je suis sportif et je fais ça, je fais plein de choses, je suis un actif, je suis même un hyperactif, etc. Et c'est ça ma vie. Bon. Puis nous, en tant que chrétiens, on se dit, mais mon pauvre ami, t'es un petit peu trop hyperactif. Il faudrait peut-être que tu sois un peu moins actif et un peu plus reposé. C'est quoi ta vie? C'est ça? Non. Et dans la parole de Dieu, on voit souvent des choses qui sont mélangées. Comment dire? Pas mélangées dans le sens compromission, mais dans le sens que c'est jamais déséquilibré. Hein, c'est bien le mot qu'il faut utiliser. Si tu fais quelque chose pour Dieu, parce que tu es chrétien, tu sais en même temps que tu n'es pas le seul à le faire. Et que Dieu n'attend pas que tu dises, moi j'ai fait ça, tu sais, Seigneur. J'ai fait ça tout seul, sans toi, Seigneur. Non. On sent en tant que chrétien que ce qu'on va exprimer, même de manière silencieuse, c'est que nous faisons quelque chose parce que le Seigneur est avec nous. Puis parfois, le Seigneur fait des choses. Et nous sommes avec lui. Et il y a comme une façon de voir le monde, de voir la vie, qui fait qu'on ne se met pas au centre, et on ne se met pas non plus trop excentré. On n'est pas au centre, mais on est avec le Seigneur. Et le Seigneur fait des choses, et nous faisons des choses. Et puis nous faisons des choses, et le Seigneur dit « Oui, d'accord, je le fais avec toi ». C'est assez curieux, c'est une espèce de mélange de volonté, celle de Dieu et la nôtre, sans que notre volonté soit quelque chose que nous imposons à Dieu. « Ah Seigneur, j'ai envie de faire ça. » Puis le Seigneur dit « Vas-y, fais-le. » Et puis des fois, le Seigneur nous dit « Oh, tu sais, j'ai envie que tu fasses ça. » On le voit dans la parole, tout d'un coup, le Seigneur nous parle, et on dit « Ah bah oui, on va le faire. » Et il y a donc une espèce de symbiose entre Dieu et sa créature. Une symbiose, je ne sais pas. Je dis symbiose, mais ça peut être autre chose que symbiose. Ce terme n'est peut-être pas équilibré. Enfin, j'en sais rien. Trouvez quelque chose. Le psaume 127, lisons-le. Psaume 127, vous le connaissez, ou si vous ne le connaissez pas, on va le lire. C'est donc le psaume 127, il nous est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, vous connaissez ceux qui bâtissent, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est-à-dire que, enfin bref, attendez, on va le prendre. Si c'est un proverbe de Salomon, c'est un proverbe, pardon, c'est un psaume de Salomon, et il nous est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Allez dans le monde et puis vous allez dire ça, les gens vont regarder avec des gros yeux. Non, 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 c'est moi qui construis la maison, c'est pas Dieu. Non? Alors d'autres diraient, ah non, 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 c'est pas moi qui construis la maison, c'est Dieu qui la construit. Ah mais c'est pas ça qui est dit. Il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bâtissent. Et il y a l'Éternel qui bâtit. Et vous avez ça en même temps, si vous voulez. Vous avez notre Dieu qui fait des choses, et en même temps nous faisons des choses avec lui. Hein, prenons bien conscience de cette chose, de cette réalité. Quelquefois, on peut trouver des gens qui disent, « Bon, moi je fais rien, moi c'est Dieu qui fait tout. » Puis d'autres qui disent, « Moi je fais tout, mais Dieu ne fait rien. » Non, c'est pas ça. Il nous faut essayer, enfin, il nous faut, moi j'essaye d'essayer de comprendre comment se fait-il que Dieu nous ait donné cette révélation dans le psaume 127. Donc ceux qui bâtissent travaillent en vain si Dieu ne travaille pas. La même chose, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Alors, on se remet dans le contexte de l'époque, il fallait des gardiens, des policiers si vous voulez, hein. Et qui dit policier dit forcément malfrat. Et donc il faut des policiers pour empêcher les malfrats de faire ce qu'ils veulent faire. Et il faut qu'il sache quelque chose, le policier, parce qu'elle le sait peut-être, probablement, c'est que s'il a sa fonction, il y a aussi Dieu qui est derrière et qui est là aussi pour faire quelque chose. Nous avons la même chose que pour la bâtisse, pour la construction de la maison. C'est Dieu qui fait, mais c'est aussi l'être humain fidèle à Dieu, qui le fait. Si Dieu garde, nous aussi nous gardons. Il y a comme quelque chose de mystérieux, qui est là dans l'ordre de la communion qu'il y a entre Dieu et sa créature. Chacun travaille à l'œuvre. Voilà. Alors après, il nous est dit au verset 2, vous savez, c'est pas la peine de vous réveiller tôt le matin, et puis de ne pas dormir la nuit. Ça ne sert à rien. En vain, vous levez-vous de bon matin et vous couchez-vous tard. Et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est assez rigolo. C'est assez quelque chose de savoureux, de presque d'humoristique dans ce que dit Dieu ici, par l'intermédiaire de Salomon. C'est que vous avez à travailler. Vous ne pouvez pas être paresseux. Mais si vous êtes hyperactif et trop travailleur, ça ne va pas non plus. Il vous faut trouver la mesure que Dieu désire pour vous, qui n'est pas d'être paresseux, mais qui n'est pas d'être hyperactif. Voilà. Vis ta vie, tranquillement. Tu n'es pas seul, il y a Dieu qui est avec toi. Sous-entendu, si tu as la foi, tu vas trouver à te mesurer avec tes activités et à être équilibré dans tous les domaines de ta vie. Dieu te regarde et il a plaisir à te voir vivre. Il y a d'autres versets qui le disent, dans les Proverbes ou même dans l'Ecclésiaste. Vous voyez, une espèce d'équilibre curieux, n'est-ce pas, que nous ne trouvons pas dans le monde. Vous prenez des gens dans le monde, ils sont cadres, hyperactifs, ils oublient, ils ont une femme et des enfants, et puis ils cassent tout finalement, et ils se retrouvent à avoir tout gagné, quoi. Ils ont plein d'argent, etc. Et puis la famille, pouf, nada, plus rien. Puis il y en a d'autres qui font rien. Ils sont au chômage. Enfin, je ne veux pas dire que les chômeurs sont des coupables, hein, je n'ai pas dit ça. Mais vous avez aussi des gens qui ne cherchent pas à être actifs. C'est déséquilibré, quoi. Et le Seigneur, ici, dans le psaume 127, veut avoir des gens équilibrés. Donc, prenez pas comme moi, mais voilà ce qu'ils cherchent. Et puis, tout d'un coup, on a dans ce psaume comme un hors-sujet. Vous voyez, Hein, si vous étiez prof de français, vous auriez un gars qui vous fait une petite dissertation, puis il parle de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, l'activité, pas trop d'activité, puis d'un coup, il raconte autre chose. Il dit voilà, un fils, des fils, c'est un héritage de l'Éternel. Ah bon? Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Pourquoi ça vient faire ici? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, et il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Bizarre, vraiment bizarre. Salomon nous parle de l'équilibre que nous devons avoir dans nos activités, puis d'un coup nous parle de ses enfants, et que c'est très intéressant d'en avoir, parce que quand on a des enfants, c'est comme des flèches dans un carquois. Vous allez à la guerre et vous avez des flèches dans le carquois, et ceux qui vous regardent disent: Ouh là là, celui-là, vaut mieux pas trop l'embêter parce qu'il a un arc, il a des flèches, on va pas trop l'attaquer. Mais si vous voulez, dans ce contexte, et dans le contexte de Dieu, qui est là et qui est actif avec ses fidèles, je ne peux pas m'empêcher de dire ou de penser qui est comme une espèce de parabole. Et cette parabole, c'est quoi? À mon sens, hein, c'est que les fils défendent leurs parents quand ils sont vieux. Et là, Salomon a l'air de dire, quand je serai vieux et qu'il y aura des gens qui viendront m'attaquer, j'aurai de la chance parce que j'ai des enfants qui vont me défendre. Alors hélas, le cas de Salomon... C'est que on ne peut pas dire vraiment que ses enfants ont été un bon témoignage. Hein. Il a eu des enfants, il a eu beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, et malheureusement, ce qu'il dit au psaume 127 ne s'est pas trop réalisé pour lui. Mais quelque part, ça se réalise pour nous. Je vais essayer de m'expliquer. Dans Hébreux, au chapitre 2, verset 10, Hébreux, chapitre 2, verset 10, il nous est dit. Quelque chose qui me semble avoir à faire avec ça. Quand j'ai lu le psaume 127, j'ai eu envie de, tout de suite de regarder dans Hébreux chapitre 2 verset 10 ce qui nous est dit. Et ça va peut-être vous choquer, j'en sais rien, mais je vais vous le dire quand même. On parle de Dieu dans le chapitre 2 verset 10. Il nous est dit, il convenait, en effet, que celui... pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, hein, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il ne voulait pas rester tout seul, cet homme. Enfin, ce n'était pas un homme, si, c'est un homme, mais puisque c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il a élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Jésus a souffert comme toi tu as souffert et comme j'ai souffert. Parce qu'il fallait qu'il soit le prince en tout et qu'il soit le premier. Bon, c'est vraiment curieux, mais ça c'est Dieu, ça. Dieu a décidé que c'était comme ça. Et Dieu a décidé que son fils, il aurait des enfants avec lui. Il aurait des gens qu'il conduirait à la gloire. Et il a dit, il a élevé par les souffrances, à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut, c'est-à-dire donc le prince de notre salut, Jésus, le premier, il a fait comme nous, il a souffert. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ils sont tous ensemble. Ils sont issus d'un seul. Il n'est pas question de dire qu'il y en a des inférieurs, des supérieurs, et que le chef qui est Jésus est supérieur aux autres. Non, non, ils sont tous ensemble, soudés. Et ils sont sanctifiés, ils sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Donc Jésus dit une chose, « Seigneur, toi, Dieu le Père, tu sais, mon Père, je ne suis pas tout seul, j'ai plein d'enfants, j'ai plein de frères et de sœurs que j'amène avec moi dans la victoire et dans la gloire. » Et après, il dit encore, et encore, je me confierai en toi, verset 13, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Vous savez que dans l'Apocalypse, quand Dieu va tout juger, les vivants et les morts, Il fait venir son église. Il fait venir tous ses enfants, tous ceux qu'il a rassemblés de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple pour en faire un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et tous ces gens, ben, c'est un peu comme au psaume 127. Qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit à la fin du psaume 127, Dieu ne sera pas confus quand ses fils parleront avec les ennemis à la porte. C'est un petit peu comme pour le début du psaume 127. L'Éternel garde la ville et nous la gardons. L'Éternel travaille à la maison, à la construction de la maison, et nous travaillons à la construction de la maison. Et Dieu ne veut pas que nous disions, oh, vous êtes des sous-fifres, vous êtes... Non, 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 vous construisez la maison avec moi. Mais moi, je suis là aussi. Et au jugement dernier, eh ben, je jugerai, hein, Dieu est celui qui jugera, et en même temps, il y aura ses enfants qui seront là pour juger avec lui. Et là aussi, il y aura un juge, un grand juge, et il y aura ceux qui jugeront avec lui. Ça, c'est bizarre. Et je pense que ce psaume 127, qui est coupé en deux, évoque un peu ce genre de choses. Vous me direz, je ne parle pas très équilibré. Hein. Oui, vous avez peut-être raison. Donc Dieu construit la maison, et ses enfants la construisent aussi. Dieu garde la ville, et les enfants la gardent aussi. Dieu a des enfants, et ses enfants défendent Dieu. Pas forcément à l'Apocalypse, mais ses enfants défendent Dieu maintenant, là que je vous parle. Et chacun de nous, nous sommes préposés à ça. Nous défendons Dieu. Ouais, Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Ben si. Si. Alors attention, comment dire? Vous avez par exemple l'Église catholique, ils estiment que Dieu a besoin, absolument besoin que nous défendions Dieu. Et donc ils ont pris l'épée et ils la prennent encore pour défendre Dieu. Puis il y a d'autres qui disent non, c'est pas la peine de défendre Dieu, Dieu se défend tout seul. Ben non, Dieu a envie que ses enfants le défendent. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'être défendu? Il n'a pas besoin d'être défendu, mais c'est son désir. Et nous le voyons, il veut que ses enfants témoignent de lui. Donc, premier point, Dieu travaille, et ses enfants travaillent aussi. Il y a comme une complicité qui s'installe entre eux. Une symbiose, je vous dis, c'est peut-être pas le terme, mais une complicité. Voilà, ça se passe comme ça. Je vais vous prendre un autre truc. Proverbe 12, 27 dit quelque chose. Il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Imaginez, dans le temps, parce qu'aujourd'hui, on comprend, il y a encore des chasseurs, hein, bien sûr, mais dans le temps, il y avait plus de chasseurs, quoi. Le gars, il court après son gibier, toc, 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 et avec son arc, ses flèches, enfin, bon, bref, son javelot, bon, c'est pas trop, mais il court après son gibier. Hein. Ça marche peut-être en Afrique encore, hein, et puis on sait ce que c'est, parce qu'on court longtemps, longtemps, et puis les animaux, en général, ça dépend lesquels, mais certains animaux, si vous courez après, ils ont moins de résistance que vous, enfin, que l'être humain, et il arrive finalement par attraper son gibier, n'est-ce pas? Donc il prend quand même beaucoup d'énergie à choper sa proie, hein, à attraper son gibier qu'il va normalement manger. Et puis là, vous voyez quelque chose de bizarre, c'est que le paresseux ne rôtit pas son gibier. C'est-à-dire qu'il a couru pendant des siècles, enfin pendant quelques heures, et puis maintenant c'est fini, quoi. Alors il donne peut-être ça à apprêter à sa femme, hein, comme ça arrive souvent, c'est-à-dire que les chasseurs ne font plus rien, ils ont tellement travaillé. Non, ici, on a cette idée que quand on a attrapé son gibier, eh bien on continue. On continue à faire ce qu'on était en train de faire. Et son activité, on y va jusqu'au bout. Et donc, on a attrapé le gibier, on l'apprête, on met du thym, du laurier, enfin bref, et puis voilà, puis on est tout content de se réjouir avec sa famille qu'on est en train de nourrir grâce à l'effort qu'on a fait. C'est ce qu'il nous est dit. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Et Dieu dit ça. Il nous dit ça. Parce que je pourrais comme ça aussi, moi, c'est-à-dire être passif. C'est-à-dire, je fais plein de trucs, vous voyez, je suis un peu comme ça. Peut-être que vous êtes comme ça aussi, je sais pas, j'en sais rien. Je fais un truc, puis arrivé presque à la fin, j'arrête. Dieu veut qu'on soit complètement conséquent avec ce que l'on fait, avec ce qu'il veut que nous fassions. Dieu est un Dieu de vitalité, il est un Dieu d'activité, il agit et il n'arrête pas au moment où il faut justement agir. Ici, le paresseux ne rôtit pas son gibier, c'est vraiment risible. Il a couru pendant des heures pour attraper son truc, et au lieu de jouir de ce travail qu'il a fait, il ne le fait pas. Dans Jacques chapitre 1, verset 25, on a la même chose dans le domaine spirituel. Celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, sans être oublieux, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. De temps en temps, ça m'arrive de chercher dans ma Bible après du gibier. Ouais, dans la Bible, vous pouvez trouver du gibier. Bon, c'est pas du gibier, un petit animal qui se balade, hein? Bon, une petite puce qui se balade dans la Bible. Non, pas ça. C'est citer un verset. Un verset tout d'un coup qui vous intéresse. Et vous vous dites, mais c'est quoi ça? C'est la première fois que je le vois. C'est pourtant, je l'ai lu tant de fois. Et quand on plonge ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, eh bien, tout d'un coup, il y a un verset qui vient là, et on dit, mais Seigneur, j'ai pas bien compris ce que tu veux dire là, mais je suis accroché à ça. Et le Seigneur veut qu'on soit accroché à ce message qu'il veut nous donner. Et à un moment donné, on va pas lâcher le gibier, on va aller jusqu'au bout, on va l'apprêter, on va le digérer, on va essayer de trouver dans d'autres passages, qu'est-ce qu'il a voulu dire le Seigneur là? Est-ce que ça a à voir avec ma vie, etc. Et oui, probablement. Hein. Donc celui qui se met à l'œuvre dans l'étude de la parole de Dieu, il sera heureux dans son activité. C'est-à-dire qu'il va devenir actif et va faire quelque chose. Dieu veut des gens actifs. C'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Dieu veut que nous soyons actifs. Je suis parfois pas actif. C'est-à-dire que je suis peut-être dans ma Bible comme si j'étais dans un monastère en train de lire et puis rien qui se passe derrière. Je veux pas que ça se passe comme ça. Il faut qu'on soit équilibré. Si quelque chose nous est donné par Dieu, on doit être conséquent et aller jusqu'à la fin de ce qu'il nous dit. Voilà. Dieu veut des gens actifs, mais pas n'importe comment, bien sûr. Des gens qui écoutent la parole et qui, à cause de cette parole, vont faire une action liée à cette parole. Un tout petit truc, hein. Dieu les éclaire sur un point de détail, hein, dans leur vie. Et ils disent, bon, Dieu me demande ça, je vais le faire. Just do it, comme on dit en américain. Hein. Il suffit juste de le faire, quoi. Hein. Et c'est vrai que quelquefois, bah, on peut être comme ce chasseur avec son gibier. Il s'arrête. Mais c'est vraiment idiot, quoi, complètement. Hein. Mais bon, je ne me moque pas du chasseur, parce que quelquefois, c'est un peu mon cas, hein, vous voyez. Donc, deuxième point, Dieu aime l'activité. Il aime voir des êtres humains actifs. On dirait, mais si on se trompe d'action, Dieu n'en a cure. Ce qu'il aime, c'est les gens qui sont actifs. Même si on se trompe, Dieu va nous guider pour que nous allions vers l'action qu'il veut. Il souhaite guider cette activité. C'est ce que nous voyons dans Jacques chapitre 1, verset 25. Il veut guider l'activité et suggérer des choses par sa parole. Voilà. Le psaume 90, c'est le psaume de Moïse. Et là-dedans, il y a quelque chose aussi que j'aimerais dire sur la lucidité sur notre existence. Dans le psaume 90, on a notre cher Moïse, qui probablement a 80 ans à l'époque. Probablement, on n'en sait trop rien à quel moment il a écrit tout cela. Mais il dit, certains arrivent à 70 ans. Et pour les plus, ceux qui sont en bonne santé, ils arrivent à 80 ans. Ouais, ils sont contents. Leur vie s'est bien passée, mais ce n'est que peine et misère, finalement. Oh là là. Pas rigolo, Moïse, hein. Verset 10 du psaume 90, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Mais on se dit, oh là là, il a une grosse déprime, hein, une grosse déprime. L'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Et Je me suis dit, oui, bon, je n'ai pas encore 70 ans, je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas, si le Seigneur me prête vie. Eh bien, Dieu veut que nous ayons une vision lucide de notre existence. Ce n'est pas très lucide de voir notre existence à 70 ou 80 ans. Surtout pour les jeunes, hein, je vous dis, mais pour les plus âgés aussi, ce n'est pas très lucide. Si vous êtes au seuil de la mort, vous n'êtes pas au seuil de la mort, vous êtes au seuil de l'éternité. C'est-à-dire que nous tous ici, on est des jeunes, hein, on est très jeunes. Par rapport à l'éternité, vous imaginez, hein, moi qui ai 60 ans, enfin plus, un petit peu plus, par rapport à un petit jeune qui a 10 ans, et puis à une personne qui a 90 ans, mais c'est rien par rapport à l'éternité. Est-ce qu'on peut essayer d'être équilibré à ce niveau-là, lucide sur notre existence, compter le temps que nous avons et rentabiliser les secondes que nous avons chaque jour. 24 heures que multiplie 3600 secondes, vous faites le calcul, bien sûr, là-dedans, vous allez dormir, hein, quand même, hein, bien sûr. Mais bon, passez ce temps à vivre avec sagesse. Ça ne veut pas forcément dire être tout le temps des bigots qui sommes... comment dire, accroché à la parole de Dieu et tout le temps en train de méditer un verset. Non, c'est de vivre de manière sage. C'est ce qui nous est dit. Apprends-nous, verset 12 du chapitre du psaume 90, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça ne veut pas dire d'être tout le temps triste et ne jamais aller au cinéma ou faire ou avoir des moments de joie avec ses enfants, faire un Monopoly ou autre chose, je veux dire, un jeu de société. Non, c'est une histoire d'équilibre dans tout cela. De joie, de communion ensemble, avec sa famille, avec ses amis, mais à bien compter les jours. Ne pas courir, prendre son temps, gérer son activité avec sagesse, ni paresseux, ni hyperactif. Non. Vivre, agir, aimer avec mesure et avec joie. Et je fais le rapprochement avec un autre verset sur lequel le Seigneur insiste. Il dit qui de vous, par ses inquiétudes, hein, parce qu'il met bien les choses, il cadre bien les choses, le Seigneur. Il dit, lorsqu'il était sur terre, à ses disciples et à tous ceux qui étaient là, qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie ? On le sait. Mais je le sais. On l'a dans notre tête, ce verset. Il nous arrive souvent. Hein. Mais méditons-le vraiment avec beaucoup d'intensité. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre ? Excusez-moi, ou l'apôtre, si on veut de la vérité, bien sûr, le Seigneur Jésus. Il nous dit de goûter l'instant présent. Goûter l'instant présent. Ça veut dire que vous avez du passé, que vous avez un avenir, que vous allez peut-être être malade, que vous allez mourir dans 2 secondes, mais goûtez l'instant présent. Goûtez l'instant présent, ça veut dire, Seigneur, je suis tellement heureux, rien que de pouvoir respirer devant toi. Je suis tellement heureux, malgré mes souffrances, malgré les choses que j'ai loupées, je veux, Seigneur, me réjouir d'être un être vivant qui peut te louer et qui peut avoir des relations avec les autres, et qui peut être équilibré. C'est merveilleux. Rien que ça, on pourrait louer le Seigneur. Je ne parle pas d'exaucement de prière, je ne parle pas de quoi que ce soit, rien que le fait d'être en train de vivre et de respirer. On peut dire, Seigneur, merci pour ça. Merci de ce que je suis un être vivant et que tu m'aies créé. C'est extraordinaire. C'est cosmique. On pourrait... louer le Seigneur, rien que de ça. Et pourtant, on a d'autres sujets de louer le Seigneur, puisqu'il nous a rachetés par grâce, qu'il nous donne la vie éternelle. Quand même, c'est pas rien. Mais non, mais même pas. Rien que le fait d'être vivant, on peut louer le Seigneur pour ça. Nous sommes encouragés par Dieu à compter notre temps, l'utiliser en bien, et en même temps, Dieu ne veut pas que nous devenions des gens stressés par le temps. Je le dis parce que nous sommes dans une époque où les gens sont stressés par le temps. Et j'ai été stressé par le temps. Maintenant, j'ai de la chance, vous me direz, je suis retraité. Ben, c'est faux. Je suis encore stressé par le temps parce que je ne suis pas équilibré et j'ai tendance à courir un peu partout. Il me faut aussi encore être discipliné là-dessus. Hein. Le Seigneur dit, recherchez. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez ce qu'il disait le Seigneur Jésus, c'est qu'il disait que on s'inquiète de l'avenir, mais c'est logique, on a le droit, et il faut s'inquiéter de l'avenir. Il ne faut pas non plus être des gens béats qui dépensons l'argent par les fenêtres et qui oublions de planifier. Parce que Jésus, il a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter de l'avenir, même de s'inquiéter du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Et il dit, à chaque jour suffit sa peine. Alors on se dit, oh Seigneur, c'est vrai, je vais m'occuper de la peine que j'ai aujourd'hui, mais pas celle de demain. Mais ce n'est pas ça qu'il veut dire, le Seigneur. C'est vrai qu'on peut avoir des peines le jour J, mais on peut aussi goûter l'instant présent. C'est ça qu'il veut, le Seigneur, qu'on arrive à goûter l'instant présent et de s'en réjouir et d'en trouver une occasion de le louer. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Oui, mais attends, tu dis ça, Étienne, mais tu sais, Jésus a dit aussi, qui de vous, ne se met pas à s'asseoir, faire un calcul, parce qu'il a l'intention de construire une tour, et de voir combien il va dépenser, et pour savoir si finalement il aura assez d'argent pour pouvoir faire la tour. Donc, tu vois, Étienne, Jésus nous dit quand même de penser à l'avenir. Oui, il nous demande de penser à l'avenir, mais sans être omnubilé, stressé par l'avenir. Il veut chez nous des choses équilibrées. C'est vraiment curieux. Il nous demande en même temps de penser à l'avenir, mais il nous demande en même temps de ne pas s'inquiéter de l'avenir. Avouez quand même que c'est bizarre. Quand vous reprenez le 127, Dieu garde la ville, mais nous devons la garder aussi. Nous travaillons, mais nous ne sommes pas les seuls à travailler, parce qu'il y a Dieu qui travaille avec nous. Il y a comme quelque chose de bizarre qu'il nous faut toujours malaxer, comprendre dans notre tête, dans notre esprit. Le Seigneur, par son Saint-Esprit, va nous éclairer là-dessus. Nous sommes donc encouragés par Dieu à compter notre temps, l'utiliser en bien, et en même temps, Dieu ne veut pas que nous devenions des gens stressés par le temps. Dieu nous enseigne à goûter l'instant présent, oui, mais donc Jésus nous dit « Tu t'occupes de l'instant présent, tu prévois quand même l'avenir, sans qu'il vienne te prendre la tête. » Faire les bons choix. Apprends-nous à bien compter nos jours, psaume 90. Évaluer et ensuite décider. C'est toute une histoire d'équilibre. C'est vraiment bizarre. Dieu nous a mis dans un contexte où on est tout le temps en train, comme sur un vélo, à rester en équilibre. Et puis vous avez intérêt à pédaler, parce que si vous ne pédalez pas, ben, pouf, vous tombez. Hein ? Et dans ce cas précis, décider, ça veut dire supprimer les priorités qu'on avait avant pour prendre d'autres priorités. Recherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, il y a des gens qui disent, « Oh, moi, je m'occupe du Seigneur, je suis tout le temps avec ma Bible, il faut que le royaume de Dieu, c'est ça. » Non, c'est pas ça. Le Seigneur nous demande dans la tête d'avoir cette disposition du cœur qui consiste à ne pas nous inquiéter de tout et de voir d'abord ce qui est plus important, ce que lui a comme chose la plus importante, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ça va peut-être consister à changer la couche culotte du bébé. Hein. Ouais, tout à fait. S'occuper, monsieur va s'occuper d'aider madame. Hein, voilà. Ça veut dire aussi, on va faire un match de foot avec les gamins du quartier, parce qu'on va s'occuper de notre enfant, parce qu'on a senti que le Seigneur voulait qu'on s'occupe de notre enfant à ce moment-là. C'est plein de choses, le royaume des cieux. Ce n'est pas vraiment des choses qui sont complètement dans l'exégèse de l'hébreu, du grec, etc. J'aime bien ça, hein, je veux dire. Hein. Je ne suis peut-être pas équilibré non plus là-dedans. Mais voilà, hein, c'est tout un ensemble. Donc Dieu travaille, nous travaillons avec lui. Dieu surveille, nous surveillons avec lui. Dieu nous donne des enfants spirituels. Ces enfants spirituels défendent Dieu. Psaume 127. Dieu désire que nous soyons des gens courageux et actifs. Et il nous donne un mode d'emploi pour être heureux dans notre activité. On va aller chasser du gibier, mais on va finir par l'apprêter, le manger quand même. Faut pas aller à mi-chemin, s'arrêter. Non, non. Petite piqûre de rappel biblique, tous les jours, et on saura orienter sa vie. C'est Jacques chapitre 1, verset 25. Dieu veut qu'on utilise bien son temps. Oh oui, il n'est pas exigeant. On a le droit de se réjouir, de passer du bon temps. Dieu aime ça. Psaume 90. Mais il veut nous enseigner à goûter l'instant présent, sans inquiétude pour l'avenir. Et là, je vous donne un dernier psaume qui me semble important parce qu'aujourd'hui, en 2017, il y a des gens qui disent que c'est la fin du monde. Bon, écoutez, c'est la fin du monde, bah oui. Du temps de Napoléon, c'était la fin du monde. Du temps des Romains, c'était la fin du monde. Quand après, Alaric est venu, il a envahi Rome, hein, il a pris tout, il paraît même qu'il a pris l'Arche de l'Alliance, et après tout, on était en 400, après Jésus-Christ. Bon, c'était la fin du monde. Bon, alors, je ne veux pas non plus me moquer, peut-être que c'est effectivement la fin du monde, et que dans 2 heures, on est peut-être auprès du Seigneur, on n'en sait rien, mais on n'en sait rien. Hein. Et 2017, bah, à mon avis, moi, je souhaite que ça soit une année bénie pour nous tous, et que durant cette année 2017, nous puissions voir, comme à Reading, des gens qui viennent et qui se convertissent, qui se tournent vers le Seigneur. Parce que vraiment, nous sommes là quand même comme des témoins de Christ, dans la mesure et dans l'équilibre, pour dire, vous savez, la vie, c'est pas simplement la nourriture et le vêtement. Hein. C'est quand même plus que ça. Hein. C'est pas la télé et puis les 12 coups de midi. Hein. Non, hein. Non. Il y a des choses qui sont certainement bien plus importantes que tout ça. Il y a notre vie spirituelle, notre vie, et surtout quand on est plus âgé et qu'on risque bientôt de mourir, c'est plus probable pour quelqu'un de plus vieux comme moi que pour des jeunes, mais on a l'éternité devant nous, alors c'est quand même le moment d'y réfléchir, quoi. Hein. Et dans le psaume 46, il y a quelque chose qui est là pour nous exhorter. Et j'aime bien ce psaume 46 parce que quelquefois, je dois avouer que justement, j'ai besoin de ce psaume, moi, pour ne pas m'affoler. Parce que ça m'arrive de m'affoler. C'est pas très équilibré, hein. Et qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous dire que je m'affole pas. Ça m'arrive de m'affoler. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, quelquefois, on peut se poser des questions, hein. Psaume 46, et on arrêtera là. Dieu est pour nous. C'est un fils de Corée, hein. J'aime bien les fils de Corée. Vous savez, c'est ceux dont le père a été tué parce qu'il voulait avoir la première place. Et les fils n'ont pas été tués parce qu'eux n'étaient pas comme leur père. Les fils de Corée. Sur Alamot. Alamot, ça veut dire sur les vierges. C'est-à-dire, c'était des chants chantés probablement par des jeunes filles. Un peu comme nous, trois jeunes filles qui chantent. Ça fait très beau, très aigu. Et c'est divin, quoi. Hein. Quelquefois, on entend des chants grégoriens, vous savez, puis il y a des gens qui disent « Oh, on a l'impression de se trouver au ciel. » Bon, oui, alors voilà. Et donc là, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce psaume 46 ? Dieu est pour nous un refuge et un appui. Le refuge, vous savez, c'était pour les criminels qui n'avaient pas voulu l'être, mais qui l'avaient été par inadvertance. Et qui avait lâché la hache au mauvais moment, et puis le fer de la hache était tombé sur la tête du copain, et le copain était mort. Alors il fallait faire quelque chose, et il y avait des villes de refuge pour ces gens-là, pour qu'on puisse juger s'ils avaient fait exprès ou pas. Hein? Dieu est pour nous un refuge. On est des gens coupables, mais rachetés. Dieu est pour nous un refuge. Et un appui. Seulement un refuge, non, aussi un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ah, pour les fils de Corée, ça voulait dire quelque chose. Eux qui n'avaient plus de parents, ils s'étaient trouvés orphelins. Et c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et alors tout d'un coup, on a l'impression que ces gens-là regardent le monde, comme nous regardons le monde. Et mais c'est la cacophonie, c'est pire que ça, c'est la fin du monde. On est en 2017, c'est la fin du monde. Ouais. Alors, il nous a dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. On sait qu'il y a des montagnes qui chancellent au cœur des mers et que ça fait quelquefois des tsunamis. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. On peut dire une chose, c'est que la mer, elle ne doit pas être contente. Hein. Pour réussir à faire trembler les montagnes, vous vous dites, on a de quoi s'inquiéter. On a de quoi s'inquiéter. Et là, il nous est dit, un secours qui ne manque jamais dans la terre. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alors on va dire, mais vous êtes des gens complètement en dehors du coup. Vous êtes sans crainte quand la terre est bouleversée. Si elle est bouleversée, vous devriez être dans la crainte. Eh bien non. Non pas parce que nous sommes des béats, des gens dans leur monastère, complètement déconnectés du monde, pas du tout. Nous avons une chose dans notre cœur, nous construisons la maison et Dieu la construit avec nous. Dieu construit la maison et nous la construisons avec lui. Dieu surveille, Dieu est le gardien, nous sommes gardiens avec lui. Et nous sommes gardiens et Dieu, il se met avec nous pour garder aussi. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à trembler les montagnes. Oh, ça fait spirituel. Hein. On a l'impression que ces hommes-là, ils avaient de la foi. Bah oui, ils avaient la foi. Mais une petite foi. En tout cas, une foi accrochée au Seigneur. Hein? Donc, soyons comme cela pour 2017. Nous sommes sans crainte. Parce que Dieu maîtrise. Dieu est là. Hein? On le sait. Alors, plus on a de connaissances de la situation du monde, politique, économique, tout ça, plus on a de crainte. Parce qu'on est désarçonné par tout cela. C'est un peu ce qui se passe ici. Ils voient les montagnes, ils voient la mer, ils voient... Et tous ces gens-là sont inquiets. Ils disent, non. Il y a autre chose que tout cela. Il y a notre Dieu, hein, qui nous laisse sans crainte quand la terre est bouleversée parce qu'elle est un refuge et un appui. Puis tout d'un coup, comme dans le psaume 127, le psaume change. Il change de on a l'impression que c'est encore hors sujet. Hein. Encore, ils sont vraiment. Hein. S'il y avait des profs de français ici, ils feraient des hors sujets tout le temps. Hein. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous avons besoin de nous placer dans les lieux élevés, un peu comme Habacuc qui se place sur les lieux élevés, un peu comme sur les montagnes, il marche, comme nous est dit pour David. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches qui sont dans les hauteurs et qui arrivent à prendre de la hauteur face à tout ce qu'on voit. On a le droit d'avoir un peu des inquiétudes, mais le Seigneur nous exhorte hein, à dire « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut, Dieu au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. » Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Et puis après, il y a la pause, hein, et puis ensuite, au verset 12 à la fin, c'est la même chose. Hein, les fils de Corée répètent, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, verset 9, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est vrai que quand on réfléchit, on se dit, mais quand même, si vous avez fait un peu d'archéologie, parce que vous êtes chrétien, vous avez certainement été fouillé un peu de temps en temps dans l'histoire du monde, vous voyez bien qu'il y a quand même des interventions de Dieu hein, qui ont été assez musclées, quoi. Hein. Vous dites, mais oui, mais si Dieu a déjà agit dans le temps, on peut se dire qu'il est encore en mesure d'agir aujourd'hui. Hein? Et c'est un peu ce qui est dit ici. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre dans le temps, hein, dans le passé. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il s'agit pour moi de rester équilibré. Et ce n'est pas le monde d'aujourd'hui avec ses journalistes qui va s'arranger pour qu'on soit équilibré. Il nous faut de temps en temps revenir à la parole, revenir à quelque chose qu'on perd facilement, que je perds facilement. Cette notion de « ouais, je travaille pour Dieu ». Ouais, mais attends, n'oublie pas. Et Dieu vous répond « ouais, mais moi, Dieu, je travaille avec toi ». Oui, moi je vais garder ton témoignage. Oui, d'accord, c'est bien. Mais Dieu dit, oui, mais moi je le garde aussi. Et il n'est pas question donc d'être seul, en se disant, je suis seul à être celui qui défend la cause de Dieu, et Dieu fait rien, quoi. Hein, Élie, je suis moi seul, je suis resté, et puis Dieu lui dit, mais non, tu sais qu'il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, non, redeviens équilibré. Dieu dit ça à Élie. Il dit ça à Élie. Écoute, sois équilibré. Tu n'es pas le seul. Mais garde cette activité que tu as pour moi. Tu vas jusqu'au bout de ce que tu dois faire dans ton petit truc, mais fais-le. Voilà. Alors j'avais envie de vous parler comme ça de l'équilibre. Je vous avoue que c'était pas très équilibré comme propos, mais j'espère que vous allez en retirer du bienfait, quoi. Voilà. Terminons la prière, mes frères et sœurs. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que tu es un Dieu exceptionnel, bien sûr, mais que nous pouvons comprendre que tu nous fais collaborateurs avec toi et que on ne mérite même pas, nous ne méritons pas d'être collaborateurs avec toi, mais tu nous fais participer dans ton char de triomphe à la victoire que tu auras jusqu'à la fin du temps. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que, malgré nos maladies, nos détresses, nos situations, nous ne sommes pas désarçonnés par ces choses que tu nous fais vivre, mais nous avons quelque chose en nous qui vient de toi et qui nous encourage et qui nous réjouit. Seigneur, il y a des fleuves qui réjouissent la cité de Dieu. Nous voulons te remercier de ce que tu es. Tu es le Dieu paisible et qui, malgré sa volonté d'amour et de paix, est obligé d'agir et qui fait que nous perdons l'équilibre. Je perds l'équilibre, Seigneur. Je te demande que tu m'aides à retrouver constamment l'équilibre en étant accroché à ta parole, accroché à toi. Louange à toi, Seigneur, pour ton bienfait que tu nous donnes à chacun, par ton Fils, notre Seigneur Jésus.